Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Un nouveau contre-histoire. La puta d'Aranjuez. Aranjuez, été 1943, Plaza de las Parejas. La Lola venait de quitter le tablao de la taberna del Tuerto. Elle savait danser, la Lola. Son taconeo diabolique et ses castagnettes avaient embrasé le public, lequel, reconnaissant, ne lui avait pas ménagé ses « Anda guapa ». Elle était satisfaite de sa prestation. Autour de sa camarade, maintenant. De fait, les applaudissements cessèrent. Sur le tablao, celle qu'on attendait, la paca, se présentait. Le tocaor, jabot de dentelle, boléro, chapeau cordouan, comme subjugué par la fille, cessa un instant de pincer les cordes de sa guitare. Puis, les frôlant, il se risqua tout de même à leur arracher une timide ponctuation. Tel un serpent, lové, qui juste se redresse, la paca rejeta sa tête en arrière. Son regard crépusculaire, scintillant métallique, fixait quelque chose sur les planches, devant elle, à ses pieds. À la commissure des lèvres, l'ombre mauve de la morgue. Des bras souples, curieusement retournés, cherchant à protéger le visage. Des mains aux longs doigts, figurant des sortes d'étoiles. Certains de ses doigts se crispèrent, comme s'ils eussent voulu griffer. Elle esquissa un pas. Sa longue robe noire à pois blancs, cernée de volants, tressaillit. Le silence. Au pied de la paca, les hommes du parterre attendaient, haletants. Ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Pourquoi donc accouraient-ils tous à Aranjuez, dans ce bouge du borgne, une fois par semaine, ces fiers à bras de la guerre civile, franquistes, phalangistes, requetes, ces tueurs qui, pendant des années, avaient assassiné, torturé, forcé des femmes? Après la reddition de Madrid, de mars 39, après avoir fusillé les ultimes résistants, après avoir obtenu de la nouvelle dictature de juteuses sinécures, fraîchement démobilisées et prenant leur quartier, souhaitaient-ils recouvrer une virginité? Aranjuez, une oasis de frondaisons, des pelouses ordonnées, des avenues qui entourent les palais royaux, les perspectives apaisantes des jardins de la Isla et du Principe, le long du Tage. Et ici, dans cette taverne, cette créature de rêve, la paca, improvisant soleares et bulerias, idéalisant la violence, sublimant le vertige sexuel. Oui, ces hommes, inconsciemment, recherchaient de la pureté. Par les portes que le gargotier laissait ouvertes, tant la chaleur était étouffante et l'atmosphère lourde de fumée, pénétrait un air tiède que l'assistance appréciait, comme si c'eût été réellement de la fraîcheur. Par instants s'insinuait la fragrance des nards de quelques patios voisins. Au premier rang, Don Agustin, transpirant, entouré d'une cour d'acolytes serviles. C'était avec condescendance que toujours il narrait dans les tascas de la ville certains exploits guerriers qui témoignaient, qui oseraient en douter, de sa sereine aptitude à l'héroïsme. Il s'avérait cependant difficile, malgré les tentatives de recoupement des gens curieux, de suivre logiquement les différents épisodes de sa vie mouvementée. Aurait-il été, avant 36, comme d'aucuns avec perfidie l'insinuaient, journaliste à la Libertad de Madrid, proclamant alors dans les cafés de la Puerta del Sol sa sympathie pour les communistes. Il ne niait pas. Il aurait été là, infiltré, en tant que taupe. On l'aurait ensuite retrouvé en 37 à Séville dans l'armée de Queipo de Llano, avec le grade de teniente. Rien que ça. Parmi les Italiens, les morts, les légionnaires. Préparait-il alors les discours de son général qui, tous les soirs à 20 heures, affirmait que les marxistes étaient des bêtes brutes, tandis que les nationalistes étaient des caballeros? Beaucoup plus confirmée apparaissait sa participation au dernier assaut de la cité universitaire en mars 39. Il aurait fait preuve d'un grand zèle patriotique dans ces massacres, qui succèdent toujours aux victoires, et au cours desquels aurait vraisemblablement péri le père de la PACA. Celui-ci était un notaire madrilène, partisan du président Azaña. Veuf depuis une dizaine d'années, il avait reporté toute son affection sur sa fille Paquita. Oui, la famille de la PACA appartenait à cette bourgeoisie républicaine libérale de la capitale. Amoureusement guidée par son père, la fille avait commencé de sérieuses études dans des instituts renommés. Par jeu, pour se distraire, elle avait désiré suivre des leçons de danse andalouse. Le teniente valeureux donnait force détails sur ses sacs qui immanquablement suivaient la prise des pueblos. Il prétendait que lui, pour se débarrasser des vaincus, n'utilisait jamais les armes à feu. Il se servait d'un poignard. En effet, n'importe quel couard peut tuer avec un revolver. Il suffit, n'est-ce pas, d'appuyer du gras de l'index sur la détente. Tandis que le maniement d'une lame, qu'on cloue dans un sein gauche, suppose, de la part du justicier, de la virilité. L'arme blanche est, par excellence, l'arme du macho. Naturellement, celui-ci se doit d'inviter le vis-à-vis à se défendre. Sinon, il encourrait l'opprobre de tout homme qui hait les capons. On dira que l'adversaire, atterré par sa défaite, n'a pas toujours un couteau à sa portée pour parer. Or, à la guerre, on a rarement le temps de se mettre à la disposition d'autrui. La guerre en dentelle, c'était bon au siècle passé. De toute façon, lui, Don Agustin, qui tuait noblement en visant le cœur, pour ainsi rendre hommage à l'ennemi, avait la conscience tranquille. Désormais, quand chez lui on lui rendait visite, il n'hésitait jamais à montrer sa collection de poignards tolédans, aux manches artistiquement ciselées, simulant même plein de verve la façon de s'en servir. Notamment lorsque, pour honorer l'antagoniste, on pointe vers le cœur. Éviter les côtes exige de l'art. Les maladroits sentent le fil de la lame sciée de l'os. Quant à planter l'arme dans un abdomen en remontant ensuite, non, ça n'est pas digne d'un macho. Le blessé agonise horriblement. Surtout si, sadiquement, en foyant les viscères, on cherche à accroître ses souffrances. Don Agustin se révélait cocasse quand il relatait les scènes de viol qu'il avait commis après les victoires. L'apanage des vainqueurs, non? Mieux, la récompense des guerriers de la bonne cause. Et puis, ces femmes et ces filles étaient les femelles de la racaille rouge, laquelle, de son côté, se livrait au même divertissement. Naturellement, il ne laissait jamais de confesser ses peccadilles à Don Bernardo, le bénédictin aumônier, son directeur de conscience, qui lui accordait fort naturellement l'absolution, sans tergiverser. Quelle que fût la réponse à la rituelle question « Combien de fois, mon fils ?» Et voilà donc, à chaque fois, le pénitent redevenu innocent comme l'agneau, candide comme le nouveau-né, blanc comme le lys que portent les madones. Prêt à recommencer. Tout au plus, Don Bernardo le traitait-il de temps à autre, amicalement, de « bribone ». Si par ailleurs, le dit aumônier bénissait le bataillon auquel appartenait Don Agustin, c'est qu'il s'attendait d'ores et déjà à entendre dans son confessionnal improvisé des aveux propres aux héros qui font la guerre. Bien, le guerrier était un bon chrétien qui pour rien au monde n'aurait manqué l'office dominical. Ces messes épiques qui se célébraient sur des planches soutenues par des tréteaux, tandis que sifflaient les balles. L'épouse de Don Agustin, Doña Pilar, avait péri sous un bombardement tout au début de la guerre. Qui étaient les instigateurs de ce pilonnage? Les rouges, pardi. De telle sorte que le mari, inconsolé, s'appliquant par la suite à humilier les femelles républicaines, ne faisait que venger sa défunte épouse. Il donnait avec esprit de piquantes précisions qui déchaînaient les rires gras de son auditoire. « Rares étaient les vierges, » confiait-il. Certaines larmoyaient silencieusement. D'autres faisaient le signe de la croix. D'autres encore n'arrêtaient pas de gueuler en appelant papa et maman. Papa ne risquait pas d'intervenir. Surtout si quelques instants auparavant, il avait reçu un coup de poignard au cœur. Parfaitement, au cœur. Quant à maman, trop vieille et laide pour être immolée comme la fille, trop titubante pour s'opposer, elle n'était qu'un témoin hurlant, ce qui ajoutait un supplément de sel à la récréation. Don Agustin était impayable. Une fois, une gamine de 15 ans avait essayé, pendant la mêlée sur les azuleros, de l'émasculer avec justement l'arme dont il s'était débarrassé, comme ça, à côté de lui, pour être plus à son aise. Dieu merci, à peine l'avait-elle égratignée au ventre. Elle gigotait comme un lombric, tant et si bien qu'il n'y avait pas eu moyen. À contre-cœur, il avait été obligé de l'assommer. Cette garce de fille, tout de même. Là, les courtisans ne riaient plus. Quoi ? Don Agustin aurait pu être mutilé ? même dans les tascas de la ville, il ne rechignait pas, parmi ses nombreux fidèles, à dégrafer son pantalon et, relevant un pan de sa chemise, il daignait montrer son ventre. Lui, le brave, avec simplicité, livrait son intimité, les poils du pubis, la verge au repos, qui avait été si vaillante. On s'approchait avec respect. On retenait sa respiration, on devinait, dans de l'ombre, une ligne rose, zigzagante, duveteuse. La cicatrice de la blessure que lui avait infligée la pouliche rétive. Une blessure de guerre. Don Agustin était un authentique héros. Honnête, il allait jusqu'à reconnaître les vertus de l'adversaire. Il éprouverait même pour cette fille, à peine nubile, disposée à lui résister jusqu'à la mort, une sorte de respect rétrospectif. Soit, tout ça est bel et bon. N'empêche qu'en ce moment, ici, à Ranjuez, dans cette taverne du Tuerto, la Paca l'hypnotisait. Sentiment étrange, fluide, jusqu'alors inconnu, qu'il ne parvenait pas à analyser. Alors, pour se donner une contenance et ne pas passer pour un inconditionnel transi de la baila ora, il fumait de longs cigares malodorants et vidait maintes coupes de manzanilla, lançant loin à terre, entre deux rots, des jets étirés de salive brunâtre. Il se flattait d'être l'amant de la Paca. Quoi de plus normal pour un veuf en butte à sa virilité? Pourquoi la danseuse sublime, en vertu d'une fade morale bourgeoise, aurait-elle démenti? Partager le lit avec un héros? Par quelles extases devait-elle être honorée? Supputaient des rivales jalouses, qui, de leurs ongles, lui auraient volontiers crevé les yeux. D'ailleurs, après le spectacle flamenco, quand les bandoneons auraient remplacé la guitare, Don Agustin ne manquerait pas de danser avec elle un tango, multipliant jeux incendiés de jambes emmêlées et torrides renversements. Et le cercle d'applaudir. En fin de soirée, la Paca, narguant, quitterait la salle, ostensiblement accroché au bras du glorieux vétéran. Soudain, le tocaor accentua son morse incantatoire tandis que le cantaor lançait une sorte de gémissement primitif. Alors la baila ora crépita du talon, frappa des paumes, s'enveloppa d'une broussaille de gestes. Par moments, son visage se noyait dans la brume de ses cheveux. Elle exorcisait pour échapper à quelque démoniaque menace. Puis elle se figea, dans une immobilité hiératique. Délivrée. Les hommes essayaient de la suivre dans son rituel, tantôt femme tourmentée, tantôt déesse fascinante, tantôt... La voici maintenant, animalement bouleversée, sur des hanches cahotantes. Don Agustin, lui qui se vantait tant de ses bonnes fortunes, admirait. Et pourtant il n'aimait pas admirer. De la faiblesse! Oui, cette femme l'envoûtait. À son insu, le venin de la passion pénétrait dans ses veines. Ce soir, indigente, apparut sa tangante exhibition. Quand, avec la menthe et après les transes du flamenco, les bandoneons sanglotèrent une pathétique comparsita. Toutes ces coupes de manzanilla qu'il avait ingurgitées, la cavalière, mobilisant tout son talent, s'efforçait de le guider. Soudain, des spectateurs qui faisaient cercle, une voix blasphéma. No tienes vergüenza, puta, que te sobe el asesino de tu padre. On s'empara de l'imposteur. D'un coup de poing, on le jeta à terre, on le tira par les jambes, on le traîna dans le patio. Là, des fidèles, pour complaire à leur maître, lui triturèrent les dents à coups de talon. Don Agustin laissa faire un moment. Il ne voulait pas désobliger ces féaux, qui, à l'envie, essayaient de lui être agréables. Du sortilège du flamenco, il fallait bien se délivrer. Bientôt, magnanime, d'une voix forte, il ordonna « qu'on pardonne !» Qui était donc l'imprécateur qui s'autorisait à outrager la Pâque? C'était Diego, l'ancien clerc et ami de son père. Que faisait-il au milieu de ces suppôts nationalistes? Voulait-il ce soir, une bonne fois pour toutes, renseigner la fille? Dans les yeux de celle-ci passèrent des fulgurances. Vite, elle se reprit. Mutine, elle se pelotonna en souriant contre la poitrine de son macho. Enfin, elle savait. Le lendemain, on retrouva Don Agustin, le héros de la guerre civile, qui, pour la première fois de sa vie, aimait d'amour une femme, comme s'il eût été en quête de rédemption. On le retrouva, gisant, sur les azuleros, ensanglantés, de son salon, un poignard tolédan planté dans le ventre. Il avait dû agoniser de longues heures. Comme tous les soirs après les danses de la taverne, la Paca avait accompagné chez lui l'homme vacillant, lui assurant une fois de plus qu'elle se donnerait à lui. Elle s'était emparée d'un poignard et le fil de la lame bien en haut, du sexe vers l'estomac, fourrageant. Elle avait vengé son père. Son père, lui, était mort d'un coup porté au cœur. Non, la Paca n'avait pas été la maîtresse du reître, ni d'aucun homme, d'ailleurs. Pendant des mois, patiemment, elle s'était montrée en public avec lui pour tenter de savoir. Madre, intuitive, femme, elle avait deviné que le matamore était devenu pantin. Son amie, la Lola, était au courant de ses desseins. On dit que la Paca vivrait encore à Toulouse. Vieille dame digne. Après avoir fait justice, elle serait parvenue, par de mystérieuses filières, à passer la frontière. En France, des réfugiés du front de Catalogne l'auraient aidée à s'intégrer. Grenade 1985. Il y a 10 ans, en grande pompe, on enterrait le caudillo, ce grand mainteneur de l'ordre moral. Les mœurs avaient évolué vite. Elles évoluaient encore. À Las Adelfas, une boîte de la Carrera de Daro, Dolores Garcia, assise à une table, buvait du whisky. À peine ses copains et copines contenaient-ils sur la piste cirée où se reflétaient des lueurs de lampadaires. L'orchestre jouait un rock dont le rythme pénétrait les corps, violant les tympans et cognant étrangement au creux des estomacs. Le batteur, en transe, s'enveloppa de gestes assourdissants, enchevêtrés, imprévisibles. Le rocker vociférait d'américaines paroles, qui, si l'on en croyait ses grimaces provocantes, traduisaient une inextinguible révolte. Franco était bien mort. Était venu le temps de la movida. Dolores, après avoir achevé son premier scotch, quitta la table pour se mêler à la bande des amis qui, sur la piste, se démenaient hystériquement. On ne s'abandonne pas, comme ça, au torrent du rythme. Il y faut quelques précautions. Elle se déhancha timidement, puis bientôt cahota avec moins de retenue, tandis que ses bras imploraient, menaçaient, agressaient, et que ses pieds, d'abord glissants, crépitaient, selon un taconeo qu'imposaient les percussions. Comme elle ne portait pas de soutien-gorge, ses seins brimbalaient délicieusement. Une ineffable impression de libération. Sa copine, Nieves, se frottait carrément contre la poitrine de Chucho, lequel, indécemment, balançait son bassin d'avant en arrière, simulant... La danse, n'est-ce pas de la fornication sublimée? Concepcion et Pilar, seules chacune de leur côté, évoluaient avec moins de véhémence, mimant avec des gestes coulés la séduction, comme si elles eussent voulu embobliner le mal qui les aurait brutalisés. Bah, des jeunes, badins, chahuteurs, libertaires, qui ne s'embarrassaient pas de précautions rhétoriques pour se demander les uns aux autres si éventuellement, afin de terminer la nuit agréablement, une nuit, pas plus, des amis, tous à l'abri de ces passions morbides qui paralysent. Des amis sérieux, au demeurant, qui, fort rarement, fumaient du hash. Dolores, malgré son envie de s'adonner frénétiquement à la danse, éprouva soudain comme un remords qui la retint dans ses exhibitions. Elle pensa à sa mère. Elle n'avait pratiquement connu que celle-ci depuis son enfance. Son père était mort presque en même temps que le caudillo. Il n'avait pas supporté l'instauration du régime parlementaire. Un stress qui aurait finalement provoqué l'infarctus fatal. Allez savoir. Basta. Ça n'intéressait plus personne, ces histoires de guerre civile, de franquisme, d'après-franquisme, que des vieux s'obstinaient encore à rabâcher. Hier soir, donc, sa mère l'avait grondé. Une scène sans éclat de voix, des reproches gênés plutôt, tout au plus, des suggestions formulées d'une voix lasse. Pauvre maman, tout y était passé, les fréquentations, même quand il s'agissait de filles et de garçons de bonne famille chrétienne, pratiquante. Les échecs répétés à la fac de lettres, les sorties nocturnes trop fréquentes, avec retour au petit matin. Et puis, qu'est-ce que c'était que ces pilules que les filles prenaient ponctuellement? Ah, si ton pauvre père était encore de ce monde! Et allez donc, c'était bien parti. On remonta jusqu'au grand-père. Il n'allait pas en boîte, lui. Avec sa guitare, il gratouillait quelques accords devant une rera, encombrée de pots de basilic, derrière laquelle se trouvait, bien dissimulée, grand-mère, manœuvrant un éventail. Grand-père l'apercevait-il seulement? N'importe. Au cours des siècles passés, maures et chrétiens, bien d'accord, étaient convenus de séquestrer les femmes. Papa, lui, ne jouait pas de la guitare. Il bavardait avec maman dans le patio, en présence des grands-parents. Ses fiançailles. Car naguère on se fiançait, mais si, et fort solennellement même. Dolores cessa de danser. Songeuse, elle revint à la table. Chucho avait commandé d'autres whisky. Du temps de maman, on ne connaissait pas le whisky. Quand papa, bien cravaté, était venu demander la main de maman, grand-mère avait servi du Malaga. À peine maman, en rougissant, avait-elle humecté ses lèvres de ce vin traditionnel. Mais que faisait ce type, seul, là-bas, près de la fenêtre? À la dérobée, il regardait Dolores. Et puis, brusquement, pour ne pas être surpris, se tournait vers les larges vitres, se donnant l'air d'un rêveur qui, au lointain, contemplerait les murailles crénelées de l'Alhambra, lesquelles, en face de Las Adelphas, rougeoyaient sous la lune. Ce solitaire devait être José López, qui avait obtenu une chaire de lettres par voie de concours et qui, de ce fait, irait, disait-on, enseigner à Madrid l'année prochaine. Un futur prof. Un peu coincé, le magistère. Retrouvons maman. Elle, qui reprochait à sa fille de négliger son instruction, était une parfaite ignorante. Licenciée esbroderie, ça oui. Inutile de parler avec elle de Lorca, prochain sujet de la dissertation qu'il faudra remettre. On verra ça plus tard. Alors que Mercedes, elle, allait recevoir de la part de son père un sérieux coup de main quand il s'agira justement d'analyser le romancero gitano du dit Lorca. Parlons-en des gitans. Jamais maman ne s'était aventurée parmi les cactus de ce lieu de perdition qu'était le Sacromonte, des grottes duquel s'échappaient des airs de flamenco qui rythmaient de sensuels zapateados. Dolores but étourdiment son whisky. C'était d'ailleurs un double scotch qu'avait fait servir Chucho. Elle en avait absorbé la moitié, distraitement, d'un seul coup. D'habitude, elle sirotait avec précaution la forte boisson, afin d'en édulcorer certains effets ravageurs. Le brusque incendie des pommettes, à moins que ce ne fût une pâleur envahissant tout le visage, les fous rires qui éclataient sans raison, les gesticulations anarchiques ou alors des torpeurs, des nausées, des courses éperdues vers les toilettes sous les railleries des copains. Thank you. Eh bien, aujourd'hui, ce fut plutôt, contre toute prévision, un picotement sur les yeux avec de discrètes larmes qui se mêlèrent à la transpiration. La faute en incombait à maman, les vocations de sa mère et de ses grands-parents, qui, au cours de la danse, avaient incompréhensiblement accaparé son esprit, l'avaient troublé, plus peut-être que l'ingestion de cet alcool. À l'orchestre, à présent, les guitares, par leur crépitement, dominaient les autres instruments. Les souvenirs acquirent dès lors plus de force. Ils se confondirent avec une hallucination. Dolores vit de ses propres yeux grand-père avec une guitare, justement, pelando la pava. D'un trait, Dolores acheva son scotch pour dissiper la vision qui avivait un remords difficile à définir. Quoi ? Un remords ? Et si ça leur plaisait aux aïeuls de vivre ainsi, asservis par leurs hommes ? En tout cas, aujourd'hui, on n'était plus autant des morts, ni Dieu merci du très catholique Franco. Zut ! Les larmes, enflées de sanglots, germèrent, plus rondes, mouillant les joues. Le whisky, bien sûr, et non un quelconque repentir, comme elle avait pu sottement le croire un moment. Là-bas, près de la fenêtre, le rabat-joie, en la voyant éplorée, avait fait mine de s'approcher comme s'il eut l'intention, puisqu'elle était seule, elle aussi, de venir lui tenir compagnie. Quel culot ! D'ailleurs, elle se savait déparée, sans séduction. Brusquement, elle pivota sur sa chaise, montrant le dos pour le décourager. Et lui, de nouveau par la fenêtre, contemplant les tours de l'Alhambra. Elle se retourna, et furtivement. Mais c'est qu'il était beau garçon, le futur prof d'université. Svelte, assez grand. Son profil se détachait sur la baie vitrée, contre laquelle cognait la nuit violette. Il ne lui avait adressé la parole qu'une fois à la fac. Non pas dans l'intention de la draguer, certes pas, mais pour lui proposer, à ton idée, une carte d'adhésion à je ne sais quel parti politique, le PSOE peut-être. Elle n'avait que faire de ce Felipe González et de ses militants. Maman tolérait mal ces soirées qu'animaient ses amis, trop libertins sans doute, mais non impies, appartenant à de bonnes familles, dont les membres, y compris les jeunes, assistaient aux offices dominicaux. L'atavisme, les traditions, les convenances, ça comptait, non ? Qu'aurait-elle dit, a fortiori, si sa fille avait fréquenté un rouge, ou tout autre dévoyé, responsable d'une constitution qui avait légalisé l'inique pratique du divorce ? L'orchestre cessa de jouer. Entracte. Les copains endiablés, encore sous le rythme, regagnèrent en désordre la table. Et Chucho, et Nieves, et Concepcion, et Pilar, et d'autres encore, les Aniceto, les Paco, les Ignacio, qui, forçant la porte du nightclub, s'agglutinèrent à la bande initiale. D'où venaient-ils donc, ceux-là, bigrement émoustillés? Des autres boîtes de la ville? Estaban de Ruerga. Quoi qu'il en soit, contaminés par leur exubérance, l'assistance applaudit, s'exclama, hurla. C'est à ce moment que Don Guillermo, le patron de Las Adelfas, sortit de son bureau, jugeant habile de se montrer. Le rouge, lui, se tenait toujours à sa place. Non concerné, le regard perdu dans les ténèbres. Autour de Dolores, on s'assit en se bousculant pour s'approprier les chaises. Tout de suite, Chucho ordonna que l'on rapportât du whisky. Ne lui appartenait-il pas, à lui, le maître de cérémonie, de conserver à un haut niveau cette bonne humeur où s'entremêlaient saillies, persiflages, impertinences ? Qu'était pas ça, Tchata? Ça y est, c'était sur Dolorès que maintenant les quolibets allaient pleuvoir. Elle pleurait, oui, elle pleurait, et puis après, qu'on lui fiche la paix. Eh ben non, on ne lui ficha pas la paix, surtout quand les copains, au comble de la jubilation, la virent boire encore. Quoi, c'était parce qu'elle ne supportait pas l'alcool qu'elle larmoyait, et la voici ingurgitant, s'obstinant, se tuant. Étrange fille! Aucun ne comprit qu'elle vidait promptement son verre, non seulement pour se donner une contenance, mais avant tout pour ôter de son esprit les images hallucinées de sa mère, de son père, de ses aïeux. À quoi bon expliquer tout cela? Personne n'aurait compris. Surtout pas la Niébès, qui pouffait de rire, comprimant son ventre de ses deux poings, et qui fut obligée de se précipiter d'arda aux toilettes. Peut-être le gars morose là-bas, qui, dans sa direction, esquissa deux pas. Ce supplément de whisky aurait dû normalement provoquer chez Dolorès un abattement définitif. Alchimie mystérieuse, les sanglots se convertirent en un fou rire irrépressible, si bien qu'elle aussi, à l'instar de Niévès, s'enfuit vers les toilettes. Forcément, tout cet alcool avalé. De nouveau, l'ermite feignit de s'intéresser aux ombres de l'extérieur. Bien lui en prenait. De quoi se serait-il mêlé, l'important? On ne lui demandait rien. Ou plutôt si, puisque les états d'âme de Dolorès semblaient le préoccuper, on allait lui en donner l'occasion de faire le psychanalyste. C'est Chucho, toujours lui, qui imagina le canular. Il alla à la rencontre de Dolores, qui retournait à sa place. À l'oreille, il lui souffla des mots. Tout à sa gaieté encore, elle acquiesça. L'orchestre s'apprêtait à rejouer. On fit un signe au chef. « Non, pas de disco, un tango plutôt !»« Tango es un pensamiento triste que se baila !» prétendent les Argentins. Et de fait, quand dans une soirée tous les assistants s'amusent à qui mieux, il suffit d'entendre les premières mesures d'un tango pour que tous se croient obligés d'afficher de funèbres visages. Alors le renfrogné esselé, déjà naturellement doué, se devait d'allonger encore plus sa triste figure. Tandis qu'au même moment, Dolores, tel était le plan manigancé par Chucho, Dolores, se dirigeant vers lui, sémillante, allumeuse, lascive, pour l'inviter. Burlesque contraste, qui assurément ne manquait pas de sel. En outre, excitant inconnu, comment le solliciter allait-il réagir? Trois bandoneons clamèrent un émoi désespéré. « No te rajes, chata !» crièrent les garçons. Chucho ajouta. Quel bout en train ce Chucho!
En ton place!
Alors la fille, décérébrée, droguée, téléguidée, se dirigea vers l'homme. Elle quitta son chemisier et, seins nus, avançant toujours, lui alla à sa rencontre. Elle se sentait attirée. Victime d'un éblouissement, d'un tropisme, d'un vertige. En même temps, elle savourait l'étrange volupté de s'enfermer dans une situation scandaleuse, de défier les bonnes mœurs, d'être dans l'impossibilité, de retourner à la minute précédente où, poitrine protégée, elle passait encore pour pudique. Elle tuait maman, qui sans cesse la mourait gênée, et qu'elle tenait pour responsable de ce malaise, cette honte qui ne la laissait pas en repos. Pis, jouant les catins et provoquant le viol, elle se suicidait. Maman et elle n'existaient plus. Dans la salle, le chahut cessa. Un silence malsain. « Oui, on peut bien rigoler, Cette fois, on dépassait les bornes. Elle était tout près de lui, vraiment tout près. Et si insolemment aguicheuse que lui, perdant toute mesure, d'une gifle brutale, la précipita par terre. La vie renaquit au même instant. Pour qui se prenait-il? Le cadetratico. On allait lui faire passer l'envie de jouer les censeurs. Qu'il se shoote à la verveine et qu'il se tienne quoi? Les garçons le bousculèrent sur la baie vitrée. Sa tête brisa un carreau. Dans le brouhaha, une voix émergea. C'était Don Guillermo, qui, en colère, conjecturait dans les temps rapprochés la fermeture définitive de son établissement. Les bandoneons imperturbables saccadaient des masses de désespoir. Le patron s'interposa. Les garçons, soudain gênés, reculèrent. Ce type, indécemment affalé contre la fenêtre, les troublait. C'est vrai qu'il était capable, à la fac, de susciter leur intérêt. Quand, par exemple, il y a un mois, faisant, et avec quel brio, une exégèse du Quixote, bah, sa blessure à la tempe ne devait pas être bien grave. Quand Dolores, mal à l'aise, à quatre pattes, comme un animal qui se tapit, tentait de retrouver son chemisier pour s'en revêtir. Le blessé, apercevant la fille, se redressa d'un bond. Il rejeta sur le parquet le vêtement qu'elle venait de récupérer. Il la pressa contre lui, écrasant sa poitrine contre la sienne. Un violon à l'orchestre gémit, comme un lion au hoquetement des bandoneons. Le garçon, transporté par le rythme, renversa sa partenaire en arrière, la releva violemment en l'obligeant à mettre sa joue contre la sienne. Puis les jambes s'entremêlèrent, il la contraignit à le suivre dans différentes figures, tantôt la brutalisant, tantôt la caressant. Rien que pour elle, à son oreille, il prononça des mots. On fit cercle autour du couple. « Que gallardo este tío !» Elle goûtait la grande joie intérieure, très pure, de ceux qui ont la conscience tranquille. Par la gifle qu'elle avait reçue, on l'avait châtiée, et du même coup absoute. Finie la honte qu'elle avait ressentie vis-à-vis de sa mère. Elle savourait en même temps un plaisir moins innocent, celui-là. Oui, la jouissance masochiste de la gifle qui se conjuguait avec une extase que lui donnait l'homme en la manipulant, la tordant, la ceinturant, selon les modulations glissées du tango. Un orgasme sublimé. Combien étriqués lui apparurent les lugubres spasmes charnels que jusqu'alors ses copains, tantôt l'un, tantôt l'autre, lui avaient infligés. Et pourtant, ils étaient gentils, les copains. Alors elle pensa que celui-ci, auquel elle tendait à s'incorporer, venait d'ailleurs, de très loin et de très longtemps. Celui-ci, elle l'aimait. Elle l'aimait d'une façon démente. Depuis quelques minutes. Il ne lui demanda pas de passer la nuit avec lui. Elle aurait été désemparée d'être obligée de répondre à l'obscène question. Elle aurait refusé. Elle aurait refusé parce que justement elle l'aimait. Surprenant paradoxe. D'ailleurs, il lui aurait été impossible d'éprouver un plaisir plus accaparant que celui qui, à cette même seconde, la fit défaillir, comme des secousses dans son ventre. Aujourd'hui, Dolores et sa maman n'habitent plus Grenade. Elles vivent à Madrid, rue Carretas, non loin de la Puerta del Sol. Dolores, après la tumultueuse soirée à Las Adelphas, ne tarda guère à épouser l'homme qui, seul entre les hommes, avait été capable de l'émouvoir jusqu'au plus profond d'elle. Elle est la respectable Señora García de López. Son mari est titulaire d'une chaire à l'Université de Madrid. Vraisemblablement, sous peu, il siégera aux Cortés en tant que député du PSOE. Représentant du PSOE, quelle honte, pense maman. Pourtant, ce gendre, qui est déjà une personnalité politique, intervient dans des réunions que préside un certain Felipe González, lequel est un familier de notre roi, Juan Carlos. Juan Carlos, tout de même. Juan Carlos de Bourbon y Bourbon, petit-fils d'Alphonse XIII, désigné en 69 par le général Franco comme roi d'Espagne. Sans compter que plusieurs fois par semaine, un chauffeur, mandé par ce gendre attentionné, conduit maman à l'église de Las Descalzas pour qu'elle puisse assister aux offices.
Recuerdos que se fueron con el tiempo, presiento que reviven otra vez, igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más.
Si quieres olvidarme, déjame,
dijiste la mañana que partí.
Tú sabes que te quiero y te querré,
y tuyo es el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, de amante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. ¿Comprendes el porqué de mi partir? ¿Comprendes mi amargura en el adiós? ¿Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo? Soledad,
blanca luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Sabes que te quiero y te querré, y tuyo es el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, y amante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. Comprendes el porqué de mi partir, comprendes mi amargura en el adiós. ¿Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo?